En ce 25 novembre, je pensais de vous parler de la mère de Saint-Jean Bosco, Marguerite Bosco, une humble femme qui est morte comme une sainte et qui a vécu comme une sainte. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. L'an dernier, je vous avais parlé de l'évangéliste Saint-Marc, une émission qui avait beaucoup plu, je pense. Marguerite Bosco a évidemment vécu au siècle dernier, et la mère du saint le plus fameux du siècle dernier, peut-être, Don Bosco, Saint-Jean Bosco, des Italiens. Faut bien se dire que la grandeur et la sainteté n'ont pas besoin de, comment dirais-je, de noblesse, d'origine noble. La sainteté n'a pas besoin de faste non plus, on le sait. Hein? Elle n'a pas besoin de bruit non plus. Souvent, Dieu se fait beaucoup mieux entendre parmi les gens simples, qui vivent avec des choses simples mais bonnes, qui sont créées par lui dans la nature. C'était une paysanne, Marguerite Bosco. Elle est née à Caprilio, c'est près de Turin, ça, en Italie. Donc, tout à fait dans le nord-ouest de l'Italie, tout près de la France. Là où est conservé, comme on sait, le Saint-Suaire de Turin. Elle est née là le 1er avril 1788 d'une famille donc de paysans qui avaient un certain... Ils étaient assez à l'aise, c'était pas plus que ça. Elle était la troisième de cinq enfants, qui étaient des filles et des garçons. Son père s'appelait Melchiori, Occhiena et Dominica Bosone. Elle est devenue Bosco par son mari. Les meilleures qualités, on pouvait dire, se trouvaient chez elle dès qu'elle était jeune. Elle avait un caractère. C'est pas une sainte sans caractère, loin de là, c'est tout le contraire. Elle avait déjà, dès son jeune âge, une volonté résolue. Elle était franche. Elle avait une persévérance dans ses intentions. Et ses parents, qui étaient de bons chrétiens, l'avaient déjà habitué à respecter la loi de Dieu. Dans ce temps-là, on insistait énormément, heureusement, sur la loi de Dieu, qui réglait chacun de leurs actes. Elle était de tempérament vif, cette petite Marguerite, très vif, vous verrez. Et elle avait l'âme éprise des beautés de la nature, au milieu desquelles elle vivait. Elle aimait la nature, et si on en a des preuves, et son fils, qui a laissé des mémoires au sujet de sa mère, Saint-Jean Bosco, le rappelle souvent. Elle a dû éprouver, évidemment, les tentations de sa jeunesse. C'était une jeune femme qui avait du caractère. Mais quand elle se sentait entraînée, justement, en dehors de la voie que lui traçait sa volonté ferme du bien, elle savait répondre non, tout simplement. Non. Comme d'autres qui sont devenus des saints. C'est l'époque où dominaient les Austro-Russes dans cette région de l'Italie. Évidemment qu'on n'est pas plus heureux qu'avant, car les soldats austro-russes, qui venaient d'Autriche et de Russie, occupaient le pays au nom du roi. Ils agissaient en maîtres. Hein. Ils augmentaient les impôts, ils enrôlaient les jeunes gens dans l'armée. Ils défendaient aux gens d'accumuler de la nourriture en prévision de la famine. Ils allaient même jusqu'à frapper le clergé en arrêtant le plus de prêtres possible. Tout ça mettait la région de Turin, là, la Ligurie aussi, la région de Gênes et toutes ces régions-là, en pleine effervescence. Quelques mois auparavant, quelqu'un de l'entourage de Marguerite s'était rendu en hâte à Alexandria pour voir passer le pape Pie VI prisonnier et malade, et Marguerite voyait et souffrait, mais elle n'avait pas peur. Elle en a donné la preuve. Et c'est une histoire tellement étonnante. Elle a tenu tête, elle toute jeune, je pense qu'elle avait 9 ans, à un escadron de cavalerie autrichienne, ni plus ni moins. C'était en 1804. 1804, puis je vous ai dit, n'est-ce pas, qu'elle est née en 1788, donc elle avait près de 16 ans. Mais un autre événement qui s'est déroulé quand elle avait 9 ans aussi, elle avait donc 16 ans. Et Napoléon bouleversait l'Europe avec ses guerres. Et dans la cour de la ferme de Marguerite, il y avait le résultat d'une récolte, une belle couche de maïs qui séchait au soleil. C'était la récolte de l'année. Or voici que l'escadron ennemi, là, des cavaliers, envahit le champ voisin. Et tandis que les soldats se reposent, bien, les chevaux, eux, pénètrent dans le terrain gardé par Marguerite. Elle s'effraie pas de ce troupeau de chevaux. Elle les affronte, au contraire, courageusement, elle les repousse en les frappant de ses mains. Mais les chevaux ont pensé que la chère Marguerite voulait les caresser. Ils ont continué tranquillement à manger le maïs, le fourrage de choix, et alors... La petite Marguerite espérait faire mieux comprendre. Elle s'est adressée aux hommes. Elle a commencé à les interpeller, ses soldats, à leur crier d'éloigner leurs chevaux de son maïs, qui avait coûté une année de sueur à elle puis à sa famille, et qui n'était pas de nourriture pour des bêtes comme ça. Alors, si les mains suffisaient pas, les paroles non plus, eh bien, elle a utilisé sa fourche. Alors, les chevaux ne réagissaient pas devant le manche de bois. Alors, elle a utilisé les pointes de fer sur les flancs des chevaux, de toute sa force. Et enfin, ils ont compris, et les bêtes se sont sauvées en ruant, n'est-ce pas? Et puis ensuite, ben, les cavaliers ont dû courir après leurs chevaux. Et ce courage dont cette jeune Marguerite avait fait preuve dans sa jeunesse ne s'est jamais démenti au cours de toute sa vie. Elle avait rêvé de rester toujours auprès de son père et de sa mère qu'elle aimait tendrement. Mais cette jeune fille n'avait peut-être pas envisagé la possibilité d'un mariage. Elle, pourtant, il est sûr que Dieu la prédestinait à ce sacrement de mariage. Parce que c'est dans le sacrement de mariage que Dieu... se permet, si on peut dire, de voir à ce qu'un couple remplisse sa véritable mission qu'il lui réserve et qui est la maternité. La chose la plus sublime qui soit, que des êtres humains peuvent faire, donner la vie à quelqu'un qui sera éternel et qui pourra apprendre à connaître Dieu. Et dans leur cas, à ce couple, ce sera la naissance d'un saint. Francesco Bosco était donc cet époux, ce mari destiné par Dieu à Marguerite. Leur mariage est célébré le 6 juin 1812. Marguerite a 24 ans. 24 ans. Francesco Bosco était veuf. Il avait un fils de 9 ans, Antoine. Et Francesco avait encore sa mère, qui s'appelait Marguerite aussi. C'était une femme de grand cœur, sentiment profondément chrétien. Et la jeune Marguerite Bosco, en entrant dans la maison, a considéré comme sien le fils et la mère de son mari. L'amour de Francesco et de Marguerite a été bientôt béni par la naissance d'un fils Joseph, suivi 2 ans plus tard de la naissance d'un autre fils Jean, Giovanni, le futur Don Bosco, Saint Jean Bosco. Mais la joie de cette union vraiment parfaite devait être de courte durée, car 2 ans après que Dieu ait donné Giovanni et Jean Bosco à Marguerite, eh bien, son mari, Francesco, meurt d'une pneumonie. C'est le souvenir des paroles prononcées par sa mère à ce moment-là qui rappelait à Don Bosco ce grand malheur. En effet, devenu prêtre, il en parlait souvent, il le racontait en ces termes. Il dit « J'ai oublié le visage de mon père, je n'avais que 2 ans. Mais je revois encore la scène de ce jour triste, triste à mourir. Tout le monde sortait de la chambre mortuaire. Et je m'obstinais à y rester, mais maman, me prenant par la main, me répétait « Viens, viens avec moi, mon petit. » Et néanmoins, quelque chose que je ne m'expliquais pas me retenait dans cette chambre. Je répétais « Si papa ne vient pas avec moi, je ne viens pas moi non plus. » Et alors, Marguerite Bosco a éclaté en sanglots, raconte Don Bosco. « Mon pauvre enfant, tu n'as plus de père. Tu n'as plus de père. » Et elle est parvenue enfin à m'entraîner, raconte Don Bosco, tandis que je pleurais avec elle de son chagrin. Et ces mots, tu n'as plus de père, je n'ai jamais pu les oublier. On peut imaginer la pitié infinie qui va le pousser dans l'avenir à recueillir auprès de lui une foule d'orphelins. Et ça a son origine, on peut s'imaginer dans cette douleur d'enfant. Tu n'as plus de père. Et il le comprenait quand il rencontrait ces orphelins, car il savait ce que c'était. Il avait inconsciemment, mais profondément gravé dans son âme et avec la vive impression du malheur là, qui avait fait pleurer sa mère. Alors Marguerite Bosco reste seule pour nourrir et élever ses enfants. Et en outre, il y a la mère de son mari qui est âgée de 70 ans, ce qui n'est pas jeune, n'est-ce pas? C'est mon âge. Elle est accablée d'infirmité. Elle devait être aidée et soignée, mais Marguerite Bosco avait pour elle toute la force de sa volonté puis sa confiance en Dieu. C'était une terrible année. Il y a eu la sécheresse qui avait détruit les récoltes. Les plus pauvres en arrivaient à se nourrir de son et au lieu de farine. Certains avaient été trouvés morts de faim dans les champs, avec quelques brins d'herbe encore dans la bouche. Les paysans se rendaient nu-pieds en pèlerinage, de sanctuaire en sanctuaire, pour demander à Dieu de les aider. La famine terminée, Marguerite Bosco s'était donnée avec ardeur alors aux travaux des champs. Et non seulement à ceux que les femmes font habituellement, mais encore aux autres, le plus pénible, qui était réservé aux hommes. Dans ses rapports avec sa belle-mère, qui s'appelait aussi, je vous le rappelle, Marguerite Bosco, eh bien notre Marguerite montrait de la courtoisie. Et elle ne faisait rien sans lui demander son autorisation, car elle la considérait, elle le dit elle-même, comme la reine de la maison. En somme, cette jeune Marguerite Bosco était une paysanne illettrée, quoi, mais elle avait le sens inné de l'éducation. Et tout le bien qui remplissait son âme, elle s'ingéniait, elle communiquait à ses fils, ses trois fils, dont l'un adoptif, l'aîné, Antoine. Et elle le renseignait ça plus par sa fermeté très calme, qu'en imposant son autorité. Et le plus grand chagrin de Marguerite Bosco a été de constater que ses efforts avaient manqué leur but, comme cela arrivait avec son beau-fils Antoine. Il était très différent de ses jeunes frères. Antoine était autoritaire avec eux, était violent, jaloux. Jaloux, oui, jaloux des préférences qu'il s'imaginait voir chez Marguerite pour les deux autres. Mais c'était à tort. Non, plus Antoine était insolent, et plus elle le traitait avec douceur. Et même, en lui adressant des observations, des reproches, elle était plutôt affectueuse et calme. Un jour, elle récitait le pater à haute voix devant selon son habitude, et arrivée au passage, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Elle s'arrête, elle dévisage Antoine, puis elle lui dit, « Toi, Antoine, tu ne dois pas les dire ces mots, pardonnez-nous nos offenses. » Alors il dit, « Pourquoi? Ils sont bien dans notre Père. » Elle dit, « Sans doute. » Mais tu ne dois pas les dire, parce que tu ne veux pas pardonner à tes frères et que tu gardes la rancune au fond de ton cœur. Alors plusieurs fois, elle a répété cette observation qui n'a pas manqué de faire son effet. Tout d'abord, Antoine, il se révoltait, puis il s'enfermait dans le mutisme, silence. Il maugréait quelques mots brusques et finalement, il s'approchait de sa mère qui, de temps en temps, lui lançait un coup d'œil et il murmurait « Maman, maman, oui, j'ai eu tort, pardonnez-moi. » Et très affectueuse, avec ses fils, elle demeurait austère, comme on voit, et énergique. Les Bosco habitent le bourg de Becchi, B-E-2-C-H-I. Et ce bourg de Becchi n'est qu'une ensemble de maisons, quoi. Il y a des collines au loin qui s'élèvent au bout de la vallée. Par-delà, le clocher de Boutillier à le village voisin, on peut entrevoir une colline plus lointaine, là, à la limite de l'horizon, et sur cette colline, il y a Superga. Ce sont les servites de Marie qui occupent cet endroit fantastique, un lieu de pèlerinage où je suis allé cet été, absolument sensationnel. Et à ses pieds, on devine, je m'en souviens, étendue, la grande ville, bruyante et mouvementée de Turin, c'est tout près de Turin. Le culte de la beauté, qui était un des traits caractéristiques de Don Bosco, il l'avait puisé, évidemment, dans le contact direct avec cette nature extraordinaire qui servait de cadre. Un cadre changeant selon les saisons. Il l'avait puisé aussi dans les leçons de sa mère, parce que Marguerite lui apprenait, en termes très simples, à admirer les œuvres de Dieu, créateur de toutes choses. Et plus tard, devenu prêtre, Don Bosco aimait les longues promenades à travers les champs, en compagnie de ses jeunes protégés. Comme sa mère l'avait fait pour lui, il communiquait son admiration émue à ceux que, familièrement, avec son grand cœur, il appelait ses fils. Revenons aux trois fils de Marguerite Bosco. Ils ont appris de bonne heure à se discipliner. Leur mère était la première à leur donner l'exemple, d'ailleurs. Elle avait une discipline de soi qui leur permettait de comprendre qu'il fallait faire la guerre à la gourmandise. On ne mangeait pas n'importe quand. Il fallait faire aussi la guerre à la mollesse, à l'indulgence envers soi. Faire la guerre aussi à cette espèce de satisfaction des petits désirs personnels. Et le premier soin qu'elle considérait pour lutter contre ça, c'était le travail. Chaque heure, chaque minute devait avoir son occupation. Arrière au superflu, disait-elle. Celui qui se sert de son superflu, comment peut-il le donner aux pauvres? Elle disait ça souvent. Et comme elle faisait ce qu'elle prêchait, bien, ses paroles étaient une semence fructueuse dans l'âme de ses enfants. Joseph grandissait, devenait meilleur. Antoine, lui, le beau-fils, l'aîné, il semblait pas tirer profit des exemples qu'il avait sous les yeux. Mais à son insu, ses leçons sont restées au fond de son âme. Rappelons que ce qu'on dépose dans l'âme d'un enfant turbulent finit par jaillir. Et un jour, ça remonte à la surface. Et de fait, lui qui était si rebelle aux remontrances pendant son adolescence et sa première jeunesse, a été par la suite un bon père de famille. Il avait de qui tenir. Il avait, comme demi-frère, un saint, Saint Jean Bosco. Par une grâce particulière de Dieu, l'âme de Don Bosco, Saint Jean Bosco le petit, était mieux disposée, lui, à accueillir ce que sa mère déposait dans son cœur. Et tout petit, à l'âge où nos enfants jouent encore avec des trains, puis tout ça, puis avec un cheval de bois, ben il rendait déjà, lui, de petits services. Et les leçons de Marguerite Bosco ont porté leurs fruits pendant toute sa vie. Saint Jean Bosco était un travailleur infatigable, il avait un culte pour le travail. Il disait souvent, mes amis, je ne vous recommande pas macération et pénitence, mais travail, travail, travail. On dit plus ça aujourd'hui. Hein? Oui, c'est ce que Saint Jean Bosco enseignait à ses jeunes. Mes amis, je ne vous recommande pas macération et pénitence, mais travail, travail, travail. On peut bien dire que le testament laissé par Don Bosco à ses enfants, puis à ses disciples aussi, car c'est lui qui a fondé les Salésiens, en mémoire de Saint François de Sales, hein? C'est la sanctification du travail qui est jointe à l'élévation de l'âme par la prière. Ora et labora, disent les bénédictins. C'est la même chose. Et la discipline à laquelle il avait été plié dès son enfance lui a permis de s'imposer des privations parfois excessives, mais qu'il interdisait à ses jeunes et que d'autres, même plus vigoureux, n'auraient peut-être pas pu supporter. Il en était d'ailleurs de la nourriture comme du sommeil. Jean Bosco prenait juste ce qui lui était nécessaire pour se soutenir. C'est le cardinal Cagliero qui a été un des premiers disciples de Don Bosco qui a écrit de lui, c'est un beau témoignage ça, nous pouvons en toute vérité affirmer que Don Bosco a mené la vie de mortification et de pénitence des âmes arrivées à la plus haute perfection et à la sainteté. Les mortifications semblaient lui être si faciles et si naturelles que ce serviteur de Dieu, on en a la conviction, a possédé la vertu de tempérance à un degré héroïque. Au fond, la sainteté, C'est pas si difficile que ça, quand on y pense. Marguerite Bosco avait déclaré la guerre des héros péchés. Ils se tenaient toujours en alerte contre le scandale que fasse Dieu. Elle avait beaucoup de compassion, tout particulièrement pour les jeunes filles, qu'elle savait exposer à des abus de la part des jeunes gens et des hommes. Si elle rencontrait l'une des jeunes filles avec une robe trop courte ou peu décente, parce que déchirée, elle lui parlait doucement, puis elle lui disait « Vous ne rougissez donc pas de sentir votre ange gardien près de vous. » Si la jeune fille disait « Nous sommes pauvres et personne ne s'occupe de nous », alors elle disait tout de suite « Je vais m'en occuper, viens, venez avec moi. » Et elle l'amenait chez elle à l'allonger ou rapiécer la robe. Pour cette œuvre de charité, elle ne considérait pas qu'elle avait perdu son temps. Bien non, elle n'avait pas perdu son temps. Et quel est le secret de Marguerite Bosco? Qu'est-ce qui la motive? Elle a vécu dans la pensée constante de Dieu et de sa présence qu'elle enseignait à ses enfants. Elle disait que le monde est une vaste maison où il n'y a qu'un seul Seigneur. Le royaume du Seigneur s'étend tout autour de la maison. Et cependant, il suffit qu'on ouvre la petite porte de l'âme pure pour que le maître de l'immense univers y fasse son entrée. Si on pense à Dieu, on est déjà avec lui. Et cette, me disait la paysanne et la comtesse, ont la même manière de l'entendre Dieu, de le connaître, de l'aimer, de lui parler. Et cette manière unique, c'est de rendre témoignage à sa présence. Marguerite Bosco ne savait ni lire ni écrire, mais elle savait son catéchisme mot à mot, d'un bout à l'autre. Tous les épisodes assez poétiques de l'histoire sainte, puis encore ceux de la vie de Jésus, ben, les racontait très simplement à ceux qui ont vécu en leur cœur les faits qu'il raconte. C'est ainsi que par les lèvres de la maman, la mère, mais toutes ces choses divines passaient de son âme à elle dans celle de ses trois fils pour leur bien. Elle était pauvre de toutes choses, Marguerite Bosco, mais elle était riche de cœur et son cœur s'ouvrait sans cesse à de nouvelles affections. Charité chrétienne, elle considérait que ça s'adresse pas seulement à ceux qui ont besoin d'au monde, mais aussi et surtout à ceux qui réclament un peu de bien pour leur âme. La petite maison était dans un bois, il y avait même parfois des bandits qui profitaient de cette époque troublée là, avec les armées étrangères pour commettre toutes sortes de méfaits. Ils arrivaient la nuit, durant la nuit, et de la cour, ils appelaient la patronne à voix basse. Et si les gendarmes entendaient, il fallait faire attention. Alors Marguerite Bosco sortait. Puis, elle les introduisait même dans sa maison. Il y en avait un plus terrible que les autres, il s'appelait Méno. Il était la terreur de la vallée. Marguerite n'avait pas plus peur de Méno que des autres. Elle acceptait ses mendiants chez elle, ses voleurs. Elle les appelait fils, et pourtant c'était des bandits. Étrange, vraiment étonnant cette femme, d'un courage exceptionnel. Et pour instruire ses fils, eh bien, Marguerite s'était toujours servie d'un moyen très efficace, c'était de divertir. Elle leur donnait souvent des conseils, en leur racontant des faits, ou en leur citant des exemples tirés de la Bible ou de la vie des saints. Et elle racontait tout ça avec beaucoup de bonhomie, comme s'il avait été question de choses qui étaient arrivées à des personnes qu'elle connaissait. Aussi, les enfants l'écoutaient attentivement. Puis tous les faits restaient gravés dans leur mémoire, et de bonne heure, avec les enfants de son âge, eh bien, le petit Jean Bosco faisait de même. Il racontait des histoires intéressantes qu'il avait lues en gardant ses vaches. Puis il trouvait le moyen de glisser dans ses récits des leçons qu'il avait entendues au catéchisme et au sermon. Il commençait déjà à être ce fameux prêtre très réputé. En 1826, il y a eu une mission solennelle qui s'est prêchée au village voisin Boutillière, en préparation du jubilé, vous savez, l'année jubilaire, accordée par le pape Léon XII, et Jean s'y rendait avec beaucoup d'autres personnes du village, pour entendre les prédicateurs qui étaient très réputés, et un des soirs de mission, on était en avril, il rentrait au village au Becchi, le chapelain de Murialdo, Don Colosso, se trouvait parmi ses compagnons de route, et Jean attira son attention par le sérieux de son maintien, et le prêtre lui a demandé ce qu'il avait retenu du sermon, puis il dit, je l'ai retenu d'un bout à l'autre, je vais vous le répéter si vous le voulez. Et il a parlé pendant une demi-heure et tous l'écoutaient. Et Don Colosso n'en revenait pas. Il l'a interrompu pour le questionner sur ses études. Et Jean lui dit son désir de les continuer pour se faire prêtre et instruire de la religion beaucoup de ses camarades qui, abandonnés à eux-mêmes, devenaient méchants. Alors, le dimanche suivant, Don Colosso a parlé à sa mère puis a dit qu'il s'en occuperait. Or, Jean Bosco, à l'âge de 11 ans et demi, en 1827, doit partir de la maison parce que son frère aîné, Antoine, vraiment, est très hostile, l'empêche d'étudier, et sa mère considère qu'il est peut-être préférable qu'il aille vers Don Colosso et qu'il suive aussi, qu'il travaille peut-être et qu'il se débrouille. Et puis, finalement, à l'âge de 20 ans, en 1835... il est admis au séminaire de Chieri, où il va rester 6 ans. La veille de son entrée, Marguerite dit à son fils avec une grande tendresse, très émue, « Mon petit Jean, tu vas demain revêtir l'habit ecclésiastique, c'est-à-dire probablement la soutane, j'imagine. Tu comprends la joie très douce qui emplit mon âme en cette occasion. Eh bien, rappelle-toi que ce n'est pas l'habit qui honore ton état, mais bien plutôt la pratique des vertus. Et si par malheur tu doutais de ta vocation, je t'en supplie, dépose ta soutane plutôt que de la déshonorer. J'aime mieux être la mère d'un pauvre paysan que d'un prêtre négligeant ses devoirs. Quand tu es venu au monde, je t'ai recommandé à la Sainte Vierge. Quand tu as commencé tes études, je t'ai recommandé de prier la Madone avec ferveur. Et maintenant, je te supplie de lui appartenir entièrement. Aime ceux qui l'aiment. Et si tu deviens prêtre, conseille constamment la dévotion à la Mère de Dieu. Et la voix de sa mère tremblait, rapporte Don Bosco. Il y avait un silence ému. Et le jeune Jean Bosco, Giovanni Bosco, avait les larmes aux yeux. Et lui dit, « Maman, permets-moi, avant de commencer ma nouvelle vie, de te remercier de tout le bien qui m'est venu de toi. Tes conseils gravés dans mon cœur seront un précieux trésor où je puiserai chaque jour. Votre mère est vivante. N'oubliez pas de la remercier. » Jean Bosco avait déjà appris non seulement ce qu'enseignaient les manuels scolaires, mais plus encore ce qu'enseigne la vie. Il avait été tenté de se faire franciscain, quelqu'un l'en avait dissuadé, parce qu'il lui disait, il faudrait que tu t'occupes de ta mère. Sa mère avait protesté, puis elle lui avait dit, suis ta vocation sans t'occuper de personne, si tu veux devenir franciscain, vas-y. Je ne veux rien de toi, je n'attends rien, retiens ceci, mon fils, je suis né dans la pauvreté, je veux mourir dans la pauvreté, et bien plus... Je peux te donner l'assurance que si tu te décides à devenir prêtre séculier, si par malheur tu devenais riche, je ne viendrai même pas te voir. Mais le malheur, disait Marguerite, c'est de s'enrichir. Le malheur, c'est de désirer plus que ce qu'on a reçu de Dieu en naissant. À 70 ans passés, Jean Bosco, dont Bosco se rappellera encore cet avertissement, puis avec une profonde émotion, il va revoir devant lui cette humble paysanne qu'était sa mère, qui accompagnait ses paroles très nobles, d'un regard, d'un geste et d'une attitude presque solennelle. Et toute la vie de Saint Jean Bosco va garder l'empreinte de ses paroles. Il va refuser des offres de traitement, puis il va peiner pour gagner son pain, sa soutane comme sa chambre. Mais ça va être pauvre, ça. Demander plus tard, mais pour les autres, il va quêter toujours rien que pour les autres, puis il va rester toujours pauvre. Prêtre et pauvre, tel que sa mère l'avait voulu, mais maître de lui-même et tout consacré à Dieu. Il va célébrer sa première messe le 16 juin 1841 dans l'église San Francesco, Saint-François d'Assise. Et le lendemain, il va célébrer sa seconde messe. Et le jeudi suivant, pour satisfaire aux désirs des gens de son village, il va monter à l'hôtel de Castel Nuovo. Et de là, c'est de là qu'à la nuit, seul avec sa mère, il va prendre le chemin des Becchi, le petit village, le petit bourg. Et que de fois il avait parcouru ce chemin. Et le rêve qui remplissait alors son âme, Eh bien, ça leur donnait le courage, parce que c'était un chemin difficile. Et maintenant, il vivait réellement son rêve, et son regard se tournait vers cette femme qui marchait à son côté, la tête courbée, le pas un peu lourd. Puis voyait derrière le front de sa mère un beau front limpide, mais il devinait les mêmes pensées, les mêmes souvenirs que les siens. Cette femme humble, mais qui a été choisie de Dieu, qui était douce, mais austère, illettrée, mais très intelligente, mais elle l'avait accompagnée jusqu'à la réalisation de son rêve. Avec une confiance puis une ténacité qui tenait du prodige, et dans le silence qui troublait seulement ça et là, les bruits confus, des choses invisibles, elle revivait tout son passé. C'était adouci par la joie d'avoir atteint son but. La douceur des lieux, qui avait été témoin de son enfance, la présence de sa mère à qui il devait tant, la foule des souvenirs qui semblait jaillir tout vivant de cette solitude ont ému si fort ce jeune prêtre, Don Bosco, qui là, dit-il, éclatait en sanglots, bien malgré lui. Marguerite a dit à son fils à ce moment-là, « Ton rêve s'est réalisé, Jean, et te voilà prêtre. Et chaque jour, tu diras la messe, et retiens bien ceci. Commencer à dire la messe, c'est commencer à souffrir. Tu ne t'en apercevras pas tout de suite, mais plus tard, avec le temps, tu verras que ta mère avait raison. Eh bien, chaque matin, j'en suis sûr, tu prieras pour moi. Je ne te demande rien d'autre, rien d'autre. Tu ne dois désormais penser qu'au salut des âmes. Et ne te préoccupe pas de moi, mon enfant. Ne te préoccupe pas de moi. » Jean eut bientôt besoin d'elle. Alors, il hésite tout d'abord beaucoup à l'appeler. Sa mère était plus jeune, elle avait tant travaillé. Lui, au contraire, en l'appelant, il lui offrait quoi? La fatigue, la peine, le bruit des enfants, l'obéissance aussi. Pourquoi la mère devrait-elle soumettre sa vie à celle de son fils et se placer sous son autorité? Pourtant, la Providence ne lui indiquait pas d'autre moyen. Il est allé parler à Marguerite dans la maison natale. Quelques mots ont suffi pour la convaincre. Son fils avait tenu parole, il était pauvre. Et bien plus, il voulait secourir les pauvres et elle devait l'aider à Turin. Alors, elle a accepté de vivre avec lui. Elle ne possédait que son vêtement et son cœur, la confiance en Dieu. Elle a quitté sa terre, qui lui avait donné le pain pour elle et ses enfants. Et la veille de cette séparation, avec son fils Joseph, avec des gestes pleins d'amour, elle a effleuré l'un après l'autre tous les objets auxquels elle tenait le plus. Finalement, elle est partie. Elle a fait un paquet de ses quelques bijoux, ses pauvres habits, puis avec Jean, son vrai fils, celui de son âme, elle s'est mise en route pour Turin, à pied. On descend d'abord dans la vallée, on contourne les collines. Alternativement, le pays natal apparaît puis disparaît au tournant de la route. On remonte ensuite par un grand détour. Et de là, les béquilles semblent tout proches. Ils sont à deux pas, mais ils sont bien loin. Et on entre à Boutillera par une ruelle caillouteuse. On arrive là sur la place de l'église, puis on continue jusqu'à Moriondo. Et d'un côté, bien, il y a les collines. Oui, des collines plutôt abruptes. De l'autre, c'est déjà la grande plaine. Et là, de Moriondo à Chieri, c'est tout à fait la plaine. Il y a des prairies au lieu de vignes. Le va-et-vient plus fréquent, les usines, les magasins au lieu de du blé. Mais à partir de Chieri, bien, c'est l'étape définitive, par Pino jusqu'à la Vierge du Pilone et jusqu'à Turin. Et en ce temps-là, la colline de Chieri, oh, cette colline s'appelait Montagne, de quoi? Elle semblait interminable. C'était certainement pas agréable, comme aujourd'hui, du tout peuplé aujourd'hui. À mesure qu'ils s'éloignaient de leur petit village, eh bien, Marguerite Bosco et son fils Jean, Saint-Jean Bosco, se regardaient. Et Saint-Jean avait devant lui une longue route qui le conduira à travers l'Europe, l'Amérique. Oui, et devant Marguerite, il n'y avait que Turin, l'ultime étape. Et là, elle allait vers l'inconnu. Pendant son enfance, sa prime jeunesse, Saint-Jean Bosco avait puisé dans l'âme de Marguerite un grand désir de bien. Il fallait accueillir des garçons, des jeunes gens, les arracher à l'oisiveté, au danger. C'étaient les raisons qui poussaient Jean Bosco à commencer l'accomplissement de sa vocation spéciale en faveur de l'enfance. Il a débuté de manière inattendue, c'était le 8 décembre 1841, dans la sacristie de Saint-François d'Assise, cette église. Don Bosco aperçoit le sacristain en train de malmener un gamin, il s'interpose alors. Il l'interroge et le garçon s'appelait Bartolomeo Garelli. Il venait d'Asti, un orphelin. Il sait ni lire ni écrire. Il n'a même pas fait sa première communion. Il ne va même pas au catéchisme parce qu'il est plus grand que ses camarades, puis il n'ose pas, ça le gêne. Alors Don Bosco l'invite à apprendre le catéchisme avec lui, tout de suite même. Mais il récite d'abord à genoux un Ave Maria pour que la Sainte Vierge l'aide à sauver cette âme. Et le dimanche suivant, mais ce Garelli, ce petit garçon, amène avec lui 6 autres camarades et voilà que ça commence. Et Don Bosco va réunir des jeunes gens sous le porche de l'église Saint-François d'Assise. Ses débuts, là, il y a toujours des problèmes dans les œuvres que des saints fondent, hein? Et il s'est obligé de déménager plusieurs fois. Et finalement, il aboutit à l'oratoire de Saint-François de Sales, qui n'a plus changé de place. Et c'est là que vont apparaître les Salésiens en l'honneur de Saint-François de Sales. Et c'est là aussi que Marguerite, appelée par son fils, vient auprès de lui, tel comme un ange gardien. Dans sa nouvelle demeure, qu'est-ce qu'il y avait comme meuble? 2 bancs, 2 chaises, une malle, une table, une marmite, une casserole, quelques assiettes. C'est la misère. La misère. On pense que le caractère familial et intime que conservent toutes les maisons de Don Bosco dans le monde entier presque, mais ça produit toujours cette atmosphère, ce premier noyau de l'œuvre salésienne. Et Marguerite ne tarde pas à s'apercevoir que le linge manque pour la chapelle, alors elle coupe dans son trousseau. Elle riait même, la gorge quelque peu serrée peut-être. Et sa pauvre lingerie s'est transformée en aube, en purificatoire, en nappe d'autel. Le collier qu'elle avait reçu en cadeau de mariage a été vendu pour acheter des galons et des garnitures destinées aux ornements sacrés. Et c'est alors seulement que Marguerite a regretté d'avoir un si pauvre trousseau. La maison, petite et misérable, était suffisante pour aimer. Avec leur grand cœur, ils auraient voulu élargir les murs pour y recevoir les jeunes gens sans abri et pour loger les plus malheureux la nuit. Mais l'asile était un grenier à foin, à côté de l'oratoire, quelques draps, quelques couvertures avec un peu de paille. Les premiers jeunes vagabonds qui avaient tourné en dérision Don Bosco, qui les appelaient à le suivre, ont pris la fuite dès le matin en apportant les draps et les couvertures. Ça commence mal. Et c'était la faillite de la première tentative, mais c'était pas la faillite de l'espérance. Un soir de mai, qu'il pleuvait à torrents, à Turin, arrive un garçon de 15 ans, trempé. Il sollicite un peu de pain, un coin pour dormir. Marguerite Bosco ne lui demande même pas qui il était. Elle l'accueille comme une mère. Elle le fait sécher, place devant lui une bonne assiette de soupe. Et ce jeune garçon raconte qu'il était seul au monde. Ah, ça me rappelle quand j'ai adopté mon fils Guy. Il était seul au monde. A-t-on idée être seul au monde? Aller dans la rue et être seul au monde, ça me brisait le cœur dans ce temps-là, il y a 25 ans. Ce garçon était venu de Valeska pour chercher du travail. Il m'a dépensé les 3 dernières lires qui lui restaient. Alors Marguerite Bosco décide de lui préparer un lit dans la cuisine. Et Saint-Jean Bosco se demande s'il fait comme les autres, s'il nous vole, il sent rien. Et sa mère lui dit non, non, pas celui-là, ne le fera pas. Alors on place des planches sur 4 piles de briques, une paillasse sur le tout. Mais avant de s'endormir, le jeune garçon comprend qu'il a trouvé une vraie mère auprès de lui. Marguerite lui joint les mains pour la prière. Comme je faisais avec mon fils, je me souviens, en lui disant, « Tu as un père, et puis il est en toi, au fond de ton cœur. » Puis il m'avait dit, « Non, c'est toi, mon papa. » Marguerite lui joint les mains pour la prière. Puis elle lui murmure quelques paroles de foi pour lui souhaiter bonne nuit. Maintenant encore, dans les maisons salésiennes, on termine la journée comme ça. C'est le premier lit, le premier dortoir préparé par les mains de Marguerite Bosco. Le premier lit. Et ça a commencé comme ça. Et là, la famille de maman Marguerite augmentait. Quelques jours après ce premier lit, elle a dû en préparer un second. Et puis, elle a trouvé un garçon en larmes, qui était adossé à un arbre. Sa mère était morte la veille, il était seul au monde. Don Bosco veut s'en occuper aussi. Marguerite était seule, elle pourvoyait tout à la cuisine. Elle prépare la soupe matin et soir pour les orphelins, pour son fils, chaque dimanche. Un plat qui durait jusqu'au jeudi, le vendredi un autre, avec lequel on terminait la semaine. Elle participait aussi à la direction de cet oratoire, comme on l'appelait. Et maman Marguerite savait prendre chacun du bon côté, comme elle avait fait avec ses fils. Aux reproches, elle joignait toujours son sourire. Ben oui. Elle avait toujours dit à ses enfants, il faut servir Dieu avec joie, avec joie. Et elle continuait à en donner l'exemple. Sa conversation était très vivante. Si un des garçons, qui avait semblé d'avoir d'abord dossé les pieux, commençait à faire ses caprices, elle lui disait, pourquoi as-tu changé? Auparavant, tu étais bon, tu me donnais tant de consolation, et tu en donnais aussi au bon Dieu, alors... Mon enfant, prie, prie, et Dieu va t'aider à redevenir comme avant. Et elle y allait de son reproche. Méfie-toi. Pour tomber, tombe qui veut. Mais pour monter, monte qui peut. À chaque instant, toute occasion, elle insistait sur la nécessité puis le devoir de l'économie. Même pour les plus petites choses, même pour une allumette, elle disait, qui ne tient pas compte d'une allumette ne vaut pas une allumette. Ce sont des paroles de femme très simples. Tout sert à tailler, même l'ongle appelé l'ail, disait-elle aussi. Si un autre s'excusait pour une escapade en disant « Mais quel mal je fais », elle lui disait « La conscience est comme le chatouillement. Il y en a qui le sentent et d'autres pas. » C'est pas bête. Une fois pourtant, il est arrivé que sa bonne humeur a été troublée parce que les enfants lui avaient fait une plaisanterie plus grosse que d'habitude. Et puis, ils avaient dépassé la limite. Après quelques jours, elle est entrée dans la chambre de son fils, puis elle lui a dit, « Tes gamins m'en font trop. Je travaille, je m'épuise. Ils n'ont soin de rien. Ils déchirent, perdent leur linge. Ils font tomber par terre celui qui est lavé, qui sèche au soleil. Ils lancent tout en l'air. Je m'éreinte à tout remettre en place. Avant, j'étais bien tranquille, au béquille. J'ai envie d'y retourner pour finir mes jours en paix. » Alors, Don Bosco a regardé sa mère. Il a eu assurément le cœur tout peiné en constatant la fatigue qui ravageait les traits de sa mère. Mais il a compris qu'il ne devait pas céder à son chagrin et sans parler, il lui a montré le crucifix. Elle-même lui avait appris à se tourner vers le crucifix pour demander des consolations. Alors, il lui apprenait ce qu'il avait reçu d'elle. À partir de ce jour, elle ne s'est plus lamentée. Le sourire est devenu serein sur son visage. Elle a continué encore à raccommoder, à rapiécer pour ses jeunes garçons, qu'elle considérait comme ses fils. Quand il lui jouait quelques tours, elle se répétait elle-même, « Plus on fait de purgatoire en cette vie, moins on en fera dans l'autre. » Alors les fils grandissaient autour de maman Marguerite, et Don Bosco allait toujours à la recherche de nouveaux enfants. Il était comme le bon pasteur, sur les traces de la brebis perdue. En novembre 1856, Marguerite Bosco est atteinte de pneumonie. Elle se rend compte de la gravité de son mal, elle se prépare à mourir. À la casa, où elle avait ses mains préparées, le lit du premier orphelin. Alors, la lessive était confiée à quelques femmes dévouées. Elle avait de l'aide. Et la Providence va faire le reste. Se sentant plus près de Dieu, elle veut faire à son fils ses dernières recommandations. Ne cherche pas l'élégance et le luxe dans tes œuvres. Sers le Seigneur dans la pauvreté. Beaucoup qui sont ce que tu es aiment la pauvreté pour les autres et non pour eux-mêmes. Fais le contraire. Mais ton exemple sera un grand enseignement. Et l'heure étant venue de recevoir les derniers sacrements, bien, elle appelle Saint Jean Bosco, son fils, auprès d'elle. Il lui dit, « Jadis, c'est moi qui t'ai aidé à recevoir les sacrements, et aujourd'hui, c'est à toi d'aider ta mère. » Mais oui, je suis la plus faible, je ne puis plus prier. Alors, il ne peut arracher du lit d'agonie de sa mère, là, il ne peut pas l'arracher, il pensait qu'il devait l'accompagner jusqu'à Dieu. Et puis la mère l'appelle par son nom, « Giovanni, je te demande de me faire un dernier plaisir. En te voyant souffrir, je souffre mille fois plus. Je suis assez entouré, va, prie pour moi. Je ne demande rien d'autre. » Et elle lui fait ses adieux. Alors, il obéit. À 3 heures du matin, il entend venir vers lui son frère Joseph. Il a compris que leur mère, maman Marguerite, la mère de tout l'oratoire de Saint-François de Sales, était morte. C'était le 25 novembre 1856. Vous pouvez faire le calcul. Il y a 140 ans, aujourd'hui. On revêt Marguerite Bosco de l'unique robe qu'elle possédait. Don Bosco se rend à la Consolata afin de célébrer sa messe pour le repos de l'âme de sa mère. Devant l'autel de la Sainte Vierge, protectrice de Turin, il murmure cette prière. Et maintenant, Vierge consolatrice, il faut que vous preniez la place vide. Dans une grande famille, une mère est indispensable. Qui pourrait l'être sinon vous? Je vous confie donc tous mes fils, et veillez sur leur vie et sur leur âme, à présent et toujours. Il est curieux que l'Évangile aujourd'hui soit celui-ci. Comme Jésus enseignait dans le temple, devant les yeux, on vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc du trésor. Il vit aussi une veuve misérable y déposer 2 piécettes. Alors il déclara, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tout le monde. Car tous ceux-là ont pris sur leur superflu pour faire leur offrande, mais elle, elle a pris sur son indigence, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et à l'antienne de communion, on récite le psaume 72, verset 28. Être proche de Dieu, mettre en lui mon espoir, c'est là tout mon bonheur. Ça s'applique bien à cette très sainte femme, Marguerite Bosco, mère de Saint Jean Bosco.